100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 9, distance focale. Je goûte en formes et en couleurs. Je ne peux pas m'empêcher de voir le vin avant d'en ressentir les parfums. Sa forme m'apparaît, un cercle, un carré, une ligne, parfois une architecture plus complexe, un début plus sphérique et une finale resserrée, étroite et cinglante, plus argentée. Et puis je place la tonalité, plus ou moins claire, plus ou moins précise, et c'est cette image qui se forme, s'imprime dans mon cerveau et qui perdure au-delà des arômes, forcément fluctuants et éphémères. Il y a aussi le son et la résonance que ces formes induisent, la fréquence des couleurs et le bruit qu'elles déclenchent dans ma tête. La première chose que l'on observe dans un vin, c'est sa robe, c'est-à-dire sa teinte, mais aussi ses reflets, sa densité et surtout sa lumière, le trait qui passe dans le verre, l'instantanéité du ciel coulé dans la matière. Cette lumière est changeante, modelée par l'extérieur, le contexte, l'entourage et notre propre regard. C'est un cliché pris sur le vif que l'on retient mais qui ne révèle pas tout du vin. Il est sa porte d'entrée, comme ces photographies de fenêtres qui donnent à voir à la fois le dedans et le dehors, l'avant et l'après, le monde qui demeure et celui qui advient. Photographier la nuit implique l'usage de la pose longue, et l'une des particularités de la pose longue, c'est d'ajouter du temps à la mesure de la lumière, écrit joliment Agnès Cyr, commissaire et directrice artistique de l'exposition Marie Beauvau qui se tient actuellement à Paris, en ce printemps 2020, à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Ajouter du temps à la mesure de la lumière. Verser des heures, des minutes, des secondes et les fondre dans la nuit. Allonger le temps, l'étirer, le rendre impalpable parce que justement, sa durée l'abolit. Il y a dans les grands vins quelque chose du mystère et du temps qui s'écoule. Du temps ajouté au fur et à mesure que la bouteille patiente en cave et que le vin se bonifie. Ce n'est pas du temps retranché, disparu, c'est le temps de l'attente, celui qui s'additionne et qui, lorsqu'il réapparaît, semble contenir tout l'univers depuis sa création. Je me souviens avoir appris à développer des clichés pris en argentique. C'était dans l'hiver 1995, nous avions eu le droit de traverser le boulevard de l'hôpital et de rejoindre le 5e arrondissement juste en face pour déambuler librement dans le jardin des plantes. Quelques clichés pris en une heure et puis ensuite, dans l'obscurité de la chambre noire, la joie de voir les visages se former et passer dans la lumière. C'est l'histoire de quelques secondes. Pas assez et la photo est trop claire, trop longtemps et elle est trop sombre. Il faut viser juste, lever le papier encore tout ruisselant du bac au bon moment, à l'exacte intersection du temps et de la lumière, et l'accrocher à un fil de linge pour le laisser sécher. Les grands vins doivent eux aussi être levés de cave au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Seulement on ne sait jamais, à moins de les goûter, quelle impression ils renferment. Ce n'est qu'au moment où on les sert qu'ils se révèlent, bonne ou mauvaise phase de dégustation. Aucun élément intrinsèque ne laisse présager leur goût, et l'on ne peut qu'accumuler les indices à force d'expérience, par comparaison avec des vins et des millésimes similaires que l'on aurait goûtés précédemment. En photographie, l'image capture un espace, une lumière, un instant. Elle fige une seconde pour l'éternité, retient un geste, suspend un mouvement, fixe l'expression d'un visage. Dès lors que l'on ôte le bouchon de la bouteille, on fixe le vin dans son état, il ne pourra plus vieillir, il faudra le déguster tel quel, ici et maintenant, on ne saura jamais ce qu'il aurait pu devenir, on ne connaîtra pas son goût d'après, 5 ou 10 ans plus tard. Et quand bien même on posséderait plusieurs bouteilles de la même cuvée, chacune est différente, chacune est un individu, unique, forcément et imperceptiblement différent. La photographie retient le temps et l'empêche de s'écouler. Le liège obture le vin et empêche le temps de prendre prise sur lui. Cela dit, en partie seulement, car la porosité du matériau laisse s'échapper de micromolécules d'oxygène qui permettent au vin de respirer. Et ce sont ces échanges entre le dedans et le dehors, la bouteille et son environnement, qui oxydent le vin de façon très mesurée et très progressive et modifient sa structure, ses arômes, sa composition. De nombreux essais sur les modes de bouchage ont d'ailleurs été menés et sont toujours régulièrement menés afin de contrôler le vieillissement des vins. Outre les limites de l'utilisation du liège et ses déviances inévitables parfois, l'utilisation de matériaux alternatifs permet d'envisager le vieillissement sous un autre angle. Par exemple, les bouchons en verre ne laissent pas filtrer une once d'air et sont donc totalement hermétiques. Ainsi, outre leurs atouts esthétiques, il semble être idéal pour fermer la bouteille. Se pose alors la question du goût du vieux vin, ou plutôt de son attente et de sa reconstruction. Car qu'attend-on d'un vieux vin réellement ? Qu'il ait un goût différent du vin jeune, nécessairement. Mais tout cela est une construction à la fois culturelle et symbolique. Imaginons qu'au XVIIe siècle, lorsque la bouteille fut inventée dans sa forme actuelle et que le bouchon de liège fut choisi pour sa praticité et la disponibilité du matériau, on eût été capable de fabriquer des bouchons en verre ou même des capsules en aluminium totalement hermétiques. Que se serait-il passé ? Nous aurions évolué avec un goût du vieux vin différent, très proche sans doute, voire identique à celui d'un vin jeune. Et peut-être que la notion même de vieillissement eût été abolie et ne se poserait pas. On aurait un vin que l'on entreposerait en cave et que l'on ressortirait quelques années plus tard, non pour sa saveur et pour la découverte de sa transformation, modelée par les années, mais pour le plaisir de retrouver son goût originel, le premier qui nous aurait séduit. Une projection et une attente non pas vers l'avenir, mais tournée vers le passé. Nous dégusterions par nostalgie et non pas pour le questionnement. Aujourd'hui, les bouchonniers sont capables de prouesse, d'éliminer le TCA, la molécule qui donne le fameux goût de bouchon, et même d'imaginer des capsules de différentes obturations de façon à laisser passer plus ou moins d'oxygène pour moduler le vieillissement. Lorsque l'on goûte un vin remonté de sa cave, on ne sait pas exactement ce que l'on va découvrir. Un trésor ou bien une nostalgie fanée. C'est un peu comme ces photos jaunies que l'on ressort de leur boîte pour se rappeler les jours heureux de l'enfance et qui ont mal vieilli parce que le papier d'alors était de piètre qualité, que la pellicule et les encres n'avaient pas vocation à s'éterniser. Les couleurs ont passé et on doit se réhabituer à les regarder avec leurs tons orangés, leurs bords un peu flous, des expositions étranges. Pourtant ce sont toujours les mêmes lieux, les mêmes visages, mais ils semblent soudain aussi vieux que nous, comme s'ils avaient enjambé les années et nous avaient rejoints pour nous consoler du passé. Cette approche du temps long qui favorise l'appropriation d'un dehors imaginaire par le dedans, poursuit Agnès Cyr, stimule l'observation tranquille et concernée, renforcée par la maîtrise d'une démarche esthétique spécifique. Par ces photographies prises à travers des fenêtres, qui montrent avoir un dehors réinventé, et capturent des cours intérieurs avec leurs carrés de ciel coupés par les fils ou pentes des effets quotidiens, Marie Nouveau semble tenter elle aussi, comme les peintres avant elle, de retenir le temps de ces espaces intermédiaires dépeuplés mais habités. Se déroule alors, lentement, le passage des heures, un regard lent qui aiguise notre esprit. Le vin est à cette même frontière, entre un dedans circonscrit à ce qu'il dit de lui à sa naissance, et un dehors espéré, fantasmé, enthousiaste. Il marque la frontière de l'avant et de l'après, nous fait revenir en arrière et nous montre l'avenir. Tant que la bouteille n'est pas ouverte, c'est comme si rien ne se passait. Un peu comme le chat de Schrödinger, à la fois mort et vivant, entre deux états parce que les deux états à la fois, la partition et le tout, la présence et l'absence. Ce sont des états superposés, imbriqués et qui ne se révèlent que par leur mesure. L'état ne préexiste pas à la mesure, c'est la mesure qui le fait advenir. De même que le vin enfermé dans sa bouteille n'existe qu'en intention et en devenir, c'est une phénoménologie, c'est la dégustation qui le ranime à la vie, qui le fait exister. Tant que la vérité n'est pas établie, elle n'existe pas, ou plutôt plusieurs vérités coexistent. Je peux m'imaginer le meilleur vin du monde, comme m'inquiéter d'un défaut de bouteille ou de sa détérioration par les années. Le vin est à la fois mort et vivant. Pour résoudre ce paradoxe, deux solutions se présentent. L'approche positiviste d'abord, soutenue par Stephen Hawking, héritée de la philosophie kantienne où tout n'existe qu'en soi-même et pas tel que nous le percevons. Ainsi, l'entre-deux ne tient pas lieu de réalité. Ou bien l'on verse dans la théorie des univers parallèles, que je me plais à croire car elle élargit l'espace et désintègre totalement notre pensée cartésienne. S'il existe deux univers parallèles, alors il est logique qu'il existe aussi deux réalités. C'est une solution élégante et doucement rêveuse. Seulement la réalité nous rattrape et l'on doit trancher ce qui est et ce qui n'est pas. Photographier pour fixer, impressionner au sens de laisser une trace. La maison de champagne Devaux, installée au cœur de la Côte des Barres dans l'Aube, a initié une cuvée millésimée récurrente avec le vigneron Michel Chapoutier. Cette cuvée s'appelle Sténopée, du nom du premier mécanisme photographique mis au point dès le Xe siècle de notre ère, un dispositif optique très simple utilisé au tout début de l'histoire de la photo pour capturer une image de la réalité et consistant en un petit trou dans la paroi d'une chambre noire, faisant ainsi office d'objectif photographique. L'idée de ce champagne millésimé est de fixer l'année et d'en donner une représentation unique. À rebours de la pratique champenoise qui ne retient que les meilleures années en fonction du climat, la démarche s'appuie là sur la récurrence et le changement, l'incertitude et la captation du présent. Fixer l'instant en bouteille, voilà l'ambition de cet instantané en noir et blanc. Ce champagne blanc est une sélection des meilleures parcelles du vignoble de Vaud, du nord de la montagne de Reims jusqu'à la côte des Barres, excepté la vallée de la Marne. Chaque année, ce sont seulement certains raisins de certaines parcelles qui sont sélectionnés, les plus intéressants, souvent sur les vignes les plus âgées, dans les meilleures expositions. Ce choix peut bien sûr varier d'une année à l'autre. Assemblage de chardonnay et de pinot noir, vinifié et élevé sous bois, ce champagne se déguste comme un grand vin blanc profond et dynamique. Le premier millésime réalisé fut 2008. J'ai récemment goûté à la suite les quatre millésimes produits, forcément tous différents, mais sensibles à la même trame et au même esprit de famille. Le 2010 s'élance aujourd'hui entre générosité et tension, des notes de brioche, de fruits noirs, une trame sphérique et profonde, de grande ampleur. Et toujours cette trace saline et l'empreinte du bois qui s'estompe au fil des ans, mais qui donne de la chair et une certaine patine à ce grand vin d'accord. Chaque fois que je le goûte, il s'affine et se modèle, comme change le ciel sous l'effet de la lumière. Le temps lui procure une jeunesse à rebours, car il détend son élevage, étire sa matière et l'ancre dans le présent. La photographie n'est ainsi jamais la même, l'image toujours unique, surprenante, mystérieuse. Matière malléable à l'infini, ondoyant dans les nuances du temps, le vin n'en finit jamais de s'exposer sous un nouveau jour. La vérité n'est jamais unique ni universelle, seul l'instant présent, le moment de la dégustation demeure pour l'éternité. C'est cette impression qui reste dans notre mémoire, une image reconstruite à laquelle en succédera une autre, plus vivante, qui la complétera légèrement et en définira les contours successifs. Et comme ces vieilles photos jaunies auxquelles on tient parce qu'elles portent les stigmates du passé et du goût idéalisé de l'enfance, resteront les souvenirs de ces moments partagés, figés non pas dans leur exactitude, mais dans l'attente de leur éternel recommencement.